Oh boy, on s'amuse avec Denis.
J'espère que vous vous amusez tout autant que nous. 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, les amis. C'est 15 degrés sur Québec actuellement. Juste faire un petit refresh pour ce qui est d'environnement Canada. Ouais, voilà. Donc, c'est 15, ça va pas. On n'atteindra pas le 20 degrés qui était supposé de faire aujourd'hui. À tendance de soleil nuage ce soir, partiellement nuageux, minimum de 11 degrés. Demain, mercredi, ce sera généralement nuageux, maximum de 18. Jeudi, du soleil. Et vendredi, ce sera du soleil avec un maximum de 20 degrés. Et pour ce qui est du week-end, ça s'annonce bien aussi. Pas de probabilité d'averse intense de prévu. Peut-être dimanche soir, mais ça a le temps de changer d'ici là. Vous avez des choses à nous dire? 418-971-1021, 418-971-1021, c'est par texto, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Si vous avez des commentaires, Pascal lit tous vos commentaires. Des fois, si vous êtes chanceux, si vous êtes gentil, si vous êtes d'accord avec elle, elle va vous répondre.
Mais c'est quoi la réputation que tu me montres?
Non, c'était pas ça?
Non, c'était pas ça.
OK.
Mais par contre, je vais toujours répondre quand c'est une bonne joke sur Yann.
Oui, voilà. Trouve ça drôle, toi.
Oui.
OK, on va aller rejoindre Jérémy Gillot, qui est analyste politique et directeur chez TACT. On veut parler du départ de Marois Risky. Salut, Jérémy.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Merci d'être là ce midi. Est-ce une surprise pour toi de voir cette redoutable députée libérale dire « Ben moi, la politique, pour au moins 15 ans, c'est fini, c'est terminé. Je vais terminer mon mandat, mais je vais partir. »
C'est pas une surprise de voir Mme Risky aller s'occuper de sa famille, comme elle l'a mentionné. Ce qui est une surprise pour moi, c'est peut-être le moment qu'elle a choisi de l'annoncer en même temps. En politique, quand on commence des fois à partager des réflexions, on se retrouve dans la réalité où l'information finit par fuiter quelque part. Et là, ben, on a eu cette annonce-là aujourd'hui qui, pour le Parti libéral du Québec, mais je pense pour l'ensemble des écosystèmes politiques au Québec, c'est une grande perte.
Mais Jérémy, honnêtement, moi, ça fait partie des politiciennes que j'ai souvent, je vais le dire, défendu. Et c'est pas une question d'allégeance libérale ou politique ou peu importe. Je trouvais en fait qu'elle donnait un peu le pas à ce qu'on souhaitait en politique. C'est pas une fille qui voulait se voir ses pancartes. C'est pas une fille qui avait nécessairement des envies à défenestrer des gens pour prendre leur place. Puis même, je le dis de manière agressive parce qu'il y en a qui le sont. C'était une fille qui prenait sa place en prendre la place de quelqu'un d'autre. Une forte défendresse de ses dossiers. Elle était bonne aussi dans les débats. Elle était une excellente députée. Pas nécessairement d'être ministrable ou peu importe, à moins que son parti soit élu, bien sûr, elle poussait pas pour la chefferie du... Est-ce que depuis tout ce temps, finalement, c'était plutôt le fait qu'elle trouvait que c'en était beaucoup ou on perd littéralement une politicienne étoile de 2024?
Je pense que la longue déclaration qu'elle a publiée sur X en dit très grand quand elle dit « Aujourd'hui, chaque lundi, quand je prends le train en direction de Québec, mon cœur se serre. » Son cœur de mère, hein, ce rôle-là qu'elle veut vivre à temps plein, c'est elle avait un peu l'impression, on peut la comprendre, l'horreur des députés, c'est un peu impossible. On le prendrait même pas pour nous-mêmes. On impose à nos députés une rigueur, une disponibilité, un environnement de travail qu'on ne voudrait même pas nous choisir pour nous. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment plus ça, son départ aujourd'hui, que toute autre chose. T'as raison de souligner à quel point Marois Risky, elle était appréciée, elle faisait bien son travail. Elle était tout ce qu'on voulait voir d'une députée. Quand Marois Risky prenait un dossier en main, on savait que ça allait être bien pris en main. Puis moi, j'ai déjà travaillé de près avec elle. Quand on confiait une mission à Marois Risky, on savait que ça allait arriver. C'est pas juste parce qu'on essayait de sortir des grandes lignes ou des clips de politiciens pour essayer d'embarrasser le gouvernement. Parce que Marois allait faire son travail, elle allait sur le terrain poser les questions et elle revenait à l'Assemblée nationale avec ça. Moi, j'ai en tête, je sais pas si vous vous souvenez, cette école secondaire dans Ville-Saint-Laurent, donc qui avait eu un scandale avec les entraîneurs de basketball, par exemple. Mais c'est Mme Risky qui l'avait porté à bout de bras, qui l'avait amené à l'Assemblée nationale, puis qui aujourd'hui a créé des solutions concrètes qui permettent d'éviter qu'on reproduise ce genre de choses-là. Donc, le travail de député de terrain, elle l'avait, elle l'armenait et elle l'articulait parce que c'était une communicatrice redoutable. Donc, elle avait plusieurs belles qualités qu'on cherche dans une des clés.
Puis elle mentionne aussi des enfants, c'est ce qu'elle voulait. Malheureusement, elle devait partir le lundi et revenir très tard le jeudi soir et ou le vendredi, ce qui fait en sorte qu'elle les voyait pratiquement pas. Puis là, on comprend peut-être un peu plus son hésitation quand tout le monde la voyait à la chefferie libérale, puis elle était très, très hésitante. C'est que l'horaire était un enfer là, avec les enfants.
En tant que députée, mais donc, est-ce qu'on devrait se poser des questions à savoir, puis là, on rentre dans un autre angle, mais est-ce qu'on devrait adapter la politique un peu plus de manière humaine face aux politiciens si on veut avoir des bonnes personnes aux bonnes places pour la suite des choses, puis que ça ne soit pas difficile de jouer son rôle?
C'est quelque chose qu'on a parlé souvent ensemble, les trois ensemble. Le climat qui existe en politique, est-ce que c'est favorable à avoir des personnes de qualité? Parce que là, on mentionne l'horaire. Moi, je mentionnerais une autre chose. Les politiciens aujourd'hui n'ont plus de vie privée. Les politiciens aujourd'hui sont victimes d'attaques constantes. Et là, pas juste les politiciens, mais on s'en prend des fois à tout leur entourage. C'est pas un climat qui est le fun pour avoir une famille. C'est pas un environnement qui est facile de travailler. On parle beaucoup d'accommodation, conciliation, famille, travail. Ouais. Ben, il y en a pas dans ce métier-là. Faut toujours que tu sois disponible. Faut toujours que tu sois présent. Quand t'es pas présent à l'Assemblée nationale du lundi au jeudi, ben t'es dans ta circonscription en train de faire les soupers spaghettis de ça, les levées de fonds de ci. Ah, il y a des pluies torrentielles, faut aller aider. T'es jamais dans un moment où tu peux complètement te déconnecter. Et ben quand t'as une famille, d'avoir cette pression-là et en même temps la pression d'être présent comme parent, c'est là où c'est cet équilibre-là. Mais en même temps, Mme Ricci, elle envoie un autre message intéressant dans son discours. Elle dit qu'elle ne peut s'empêcher de livrer un message aux jeunes femmes qui est possible de tout avoir et qu'elle considère avoir tout eu. Donc, ils ont eu la réflexion en tant que couple. Son conjoint, qui est aussi député, lui a offert de démissionner à la place, chose qu'elle a refusée. Mais n'en demeure pas moins que dans 2 ans, quand Mme Ricci va tirer sa révérence de la politique, c'est une lourde perte pour le Parti libéral du Québec, comme a été pressenti peut-être par certains pour être même chef, mais c'est une lourde perte aussi pour l'écosystème politique. On n'a pas la même réaction avec le départ de Mme Ricci qu'avec le départ de l'ancienne députée de Québec de Québec solidaire. Là.
Ni Joël Boutin, là, tu sais, je veux dire, même ça, on se demande encore si c'était la vraie raison, là, la famille, mais c'est plus tough pour les femmes, justement, Jérémy. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu un homme là, démissionner pour la famille? En tout cas, j'ai pas souvenir, là.
Bien, son conjoint, Mme Ritsky le mentionne, son conjoint Greg Kelly, qui est aussi député, lui a offert de faire cette décision-là. Elle dit que c'est sa décision, c'est elle qui l'a pris, c'est comme ça qu'elle le veut. Moi, on parle beaucoup de la famille dans cet écosystème-là, mais j'en reviens au climat toxique qui existe en politique, ce climat d'attaque virulente. On a parlé de Pierre Poilievre la semaine dernière, qui attaque tout ce qui bouge et qui tire à boulet rouge sur n'importe quel de ses adversaires, peu importe la façon dont on s'y prend. Nos politiciens ont une responsabilité d'élever le débat, parce que si on veut garder des gens de qualité en politique, va falloir que les choses changent, parce que sinon, ça va devenir un métier dans lequel on sera plus capable d'attirer les meilleurs talents. On sera plus capable de garder des Marois Ricci à l'Assemblée nationale. Eh bien, dans ce temps-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ce sera des gens moins compétents qui vont se présenter dans des positions qui sont cruciales. Parce qu'à la fin de la journée, ces gens-là sont responsables de gouverner notre société.
Oui, je comprends tout ça. Puis moi, là, jamais la violence ne sera justifiée dans le dossier des députés. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a une déconnexion avec la population en général, avec le payeur de taxes qui fait en sorte que là, tu te fais enlever ton pain sur la table par quelqu'un qui semble déconnecté de ta réalité, qui dit, ben nous, on va donner encore plus d'argent à gauche et à droite, puis toi, ben tu n'es plus capable d'en donner plus. Puis tu sens qu'il semble pas avoir d'empathie envers ta situation quand tu fais partie, exemple, de la classe pauvre ou de la classe moyenne. La classe moyenne a grandement diminué, ça, Jérémy, puis ça crée de plus en plus de frustration. Il y a des foyers où les deux travaillent temps plein, puis ils ont de la misère à arriver. Et là, t'entends un Pierre Fitzgibbon d'antan qui disait, ben là, on va donner tel nombre de millions de dollars à ces entreprises-là, puis ben, en bout de ligne, on se rend compte que c'est des mauvais coups constamment. Il y a une frustration de la part des contribuables, puis ça devrait jamais se traduire en violence, mais à un moment donné, il va falloir que les politiciens se disent, mais comment on en a fait pour être rendu là. C'est pas vrai que c'est juste les gens qui sont plus violents. C'est peut-être que les gens sont plus écœurés et il doit y avoir une raison.
Je suis d'accord avec toi. Mais Marois Ricci représentait tout le contraire de ce que tu viens de décrire.
Exact.
En fait, c'est une politicienne de terrain qui allait voir les gens puis qui amenait des citations.
Oui.
Puis moi, on s'en permet plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, je vais faire une analogie de hockey, mais quand Patrick Laine s'est fait péter le genou devant les Maple Leafs, on a commencé à attaquer le Québécois de l'autre côté, qui probablement geste accidentel, à faire des menaces de mort. Donc, je trouve que on s'en permet plus de façon générale, puis c'est comme une frustration constante que je sais pas comment on la défoule. Là, c'est une discussion pas mal plus large que juste la politique, mais des fois, c'est comme si quand on est derrière notre clavier, là, on a l'insulte facile, puis on se rend pas compte de l'impact que ça a. De l'autre côté, il y a toujours une façon d'exprimer notre mécontentement, un désaccord. Et cette façon-là peut aussi passer par des députés d'une excellente qualité. Puis quand on voit une injustice, on peut aller voir nos députés, des députés comme Marois Risky, qui amenaient la réalité à l'Assemblée nationale et qui s'en servaient pour critiquer Pierre Fitzgibbon, qui prenait des décisions déconnectées. C'est vrai qu'il y a cette frustration-là, qu'il y en a de plus en plus. En même temps, ça ne veut pas dire que ça nous dédouane pour laisser aller ce... Puis là, je dis pas que la faute est aux gens. Je dis surtout que la faute est aux politiciens eux-mêmes. Parce que si les politiciens eux-mêmes ne se respectent plus entre eux, comment voulez-vous que nous, on ait un respect pour les politiciens entre eux?
Entièrement d'accord. Hey, je veux t'amener sur le fait que, je sais que tu étais au courant, là, mais on est en 2024. Il faut que tu dois quitter, c'est ce qu'on vient de me dire. Là. Est-ce qu'en 2024, on pourrait se permettre une présence à l'Assemblée nationale, mais de façon numérique? Ça fonctionne encore, Zoom, en 2024, là, à l'Assemblée nationale? On pourrait pas faire ça pour faciliter justement l'accès travail-famille avec ces hommes et ces femmes-là qui ont de très, très jeunes enfants?
C'est un très bon point. Je t'amène du côté de la Chambre des communes à Ottawa. Il y a un principe un peu de en présence et en distance qui permet à Pascale Saint-Onge, la ministre de la Culture, que sa conjointe va accoucher d'un enfant, de prendre le reste de la session à distance de façon numérique. Elle va voter à distance, elle va contribuer aux échanges à distance.
Parfait.
Une meilleure conciliation travail-famille, ça existe. Est-ce qu'on veut l'amener à l'Assemblée nationale? Ce serait le fun.
Ce serait bon pour l'environnement. On va vendre ça comme ça, Jérémy Gillot.
Je suis pas sûr que ce serait ça la bonne chose, mais il y a des solutions qui existent. On peut les mettre en place.
Ça serait beaucoup plus le chaos, en fait, dans les débats. Là. Ça, c'est sûr.
Ben, pas nécessairement, là, parce qu'il y aurait des droits de parole. Il pourrait pas embarquer.
Il fermerait le micro, là, ça deviendrait plate.
Ah, on est en 2024. Il faut arriver en 2024.
Des fois, on peut leur fermer le micro. Ça ferait du bien.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu me donnes le droit de peser sur le piton, Jérémy?
C'est bon, je vous dis bonne journée.
Bye.
Merci, Jérémy. Bye. Ben, Jérémy Gillot, l'excellent analyste politique, qui est directeur aussi chez TACT, à qui on aime bien jaser. Puis, tu sais, il a entièrement raison. Marois Risky était le modèle type de la personne qui était très à l'écoute de ses citoyens, très à l'écoute de la classe moyenne, puis de la clientèle peut-être un peu plus pauvre. Mais, tu sais, toute cette violence-là, j'aurais été curieux de mettre Internet là, en 1980, là, parce que là, encore, il y a des jeunes qui disent hey, « Internet, ça n'existait pas dans les années 80. » Non, ça n'existait pas. Mais il y aurait eu probablement cette même forme de violence-là qu'on voit sur les réseaux sociaux envers les politiciens quand il y a des décisions qui sont prises qui vont peut-être à l'encontre du gros bon sens.
Mais on avait quand même une relation avec le respect qui était totalement différente que maintenant.
Écoute, j'écoute
dans la hiérarchie, avec les parents, il y avait une façon de débattre, il y avait une façon de se challenger. Mais à la limite, c'est dans le vouvoiement, ça crée déjà une distance.
J'écoute des entrevues actuellement, là, que ce soit à Montréal ou encore à Québec, envers des politiciens, et c'est le tutoiement. On appelle par son prénom la personne qui est en face de nous, alors qu'il y a une différence. C'est un député, c'est un animateur de radio ou un journaliste. La plupart des journalistes font encore attention à la façon dont ils s'adressent aux politiciens. Mais d'entendre du tutoiement constamment, je suis dans ma voiture en tant qu'auditeur, puis je me dis, OK, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a plus de... Tu sais, à mes yeux, à moi, quand
je reçois... Au-delà de la hiérarchie, du respect, c'est sûr, c'est ça que tu veux dire aussi.
Ben aussi, je veux dire, c'est quand même...
On n'a pas élevé les cochons ensemble, c'est une expression que j'adore.
C'est quand même des échevins, fait que tu dois quand même respecter ces gens-là. Mais moi, j'ai toujours conservé une certaine distance, tu sais, avec Claude Villeneuve qui vient régulièrement nous voir. Ce serait tout à fait justifié pour moi, puisque je l'aime beaucoup, de l'appeler Claude. Mais c'est tout le temps M. Villeneuve, puis je le vous vois constamment. Même affaire quand il est dans le studio, puis les micros sont pas ouverts. Mais aujourd'hui, ce qu'on voyait pas, genre, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est que... On dirait qu'il n'y a plus de... n'y a plus d'échelle.
Il n'y a pas la distance. Puis la distance, on la sent aussi dans les écoles. Tu sais, on a essayé de ramener le vouvoiement avec les enseignants puis avec le prénom de ceux-ci. Mais regarde, il y a certainement un genre de demande d'affirmation qui avait été perdue dans le temps par rapport au statut social qui, des fois, était injuste pour certaines personnes. Fait que là, ils ont eu besoin de tasser, de défaire les barrières, de se rapprocher des gens pour pouvoir exister, faire valoir leurs points. Mais ça a mené à un débordement aussi actuel dans le respect, là. Puis de les voir, ces politiciens-là, puis Jérémy l'a dit, moi, je pense que si tu veux prôner l'exemple puis tu souhaites avoir du respect... et que ça se déroule bien, il faut que tu en aies aussi pour tes homologues en politique. Faut pas que ça arrive comme un Justin Trudeau qui se pogne avec François Legault devant Emmanuel Macron.
Exactement.
Faut montrer la bonne conduite.
418-971-101, qu'en pensez-vous? Vous avez des choses à nous dire? 418-971-101, par texto, les amis, on vient.
Marceau le midi.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits. Mais heureusement, pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois, sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Jusqu'au 20 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prises de rendez-vous sur desharnais.ca.
Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Hélène, tu joues vraiment bien.